Radio Okapi.
À la une, 26 morts, une dizaine de blessés et plusieurs disparus. Bilan provisoire d'une attaque des EDF la nuit dernière à Oicha, dans le territoire de Beni. On signale une paralysie des activités sur place. Les députés provinciaux de Kinshasa sollicitent les bons offices du président de l'Assemblée nationale pour régler le conflit qui les oppose au bureau de l'Assemblée provinciale. En effet, les élus de Kinshasa dénoncent le détournement pendant 4 ans de leurs allocations et subsides par le bureau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Vous entendrez leur porte-parole. Et puis, l'Ouganda et la RDC ont convenu de supprimer des droits d'entrée par l'octroi des visas pour favoriser la libre circulation des personnes entre les deux pays. L'Ituri est l'une des provinces de la RDC qui partage la frontière avec l'Ouganda. Comment peut-elle tirer profit de cette mesure? Nous en parlons avec Joël Houlard, responsable du bureau des informations commerciales à la frontière de Mahagui. Madame, Messieurs, bonjour. Ce journal part du Nord Kivu, dans le territoire de Beni. Au moins 26 civils tués, une dizaine de blessés et plusieurs autres personnes portées disparues. Bilan encore provisoire d'une attaque armée la nuit dernière des rebelles des EDF à Oicha, 30 km de la ville de Beni. Une vive tension est observée sur place où toutes les activités sont paralysées depuis ce matin. Le point dans ce reportage de Marc Marofimbo, rendu par Martial Papimukeba.
L'attaque est intervenue aux environs de 21h heure locale. Les assaillants ont ciblé des cellules du quartier Masossi où ils ont tué 26 civils, dont certains à l'armée blanche. Dans la cellule de Pamal, 7 personnes d'une même famille ont été tuées et 8 autres dans la cellule de Kafeza. Les 11 autres victimes ont été tuées dans la périphérie de cette zone. Selon des sources de la société civile, ce bilan est encore provisoire car plusieurs personnes sont portées disparues. L'administration du territoire de Beni et les services de sécurité sont arrivés sur les lieux de l'attaque. Ils ont récupéré les corps des victimes qui sont déjà déposés à la morgue de l'hôpital de Oicha. Depuis ce matin, une vive tension est observée sur place. Toutes les activités sont paralysées. Des jeunes en colère manifestent pour protester contre cette énième attaque des ADF. Un dispositif important de l'armée et de la police est observé dans les coins stratégiques de Oicha. Beni, Martial Papimukeba, Radio Okapi.
Par ailleurs, le comité des déplacés déplore des agitations depuis ce mardi matin dans les sites des déplacés de Kanyaruchinya, territoire de Nyiragongo. Nous sommes toujours au Nord Kivu. C'est après un affrontement entre deux factions des milices locales qui a causé 4 morts et 12 blessés en début d'après-midi hier lundi. Selon Théo Moussekoura, président des déplacés, certains déplacés ont commencé à quitter le camp pour des destinations diverses. Rappelons qu'à la base de cette situation, les miliciens APCLS de janvier et ceux de l'Union des forces de la Défense patriotique du Congo, présents dans les environs des sites des déplacés, se sont affrontés. C'était pour un malentendu, disent des sources locales. Théo Moussekoura plaide pour l'évacuation de ces miliciens de la zone. Entre-temps, la coordination provinciale de la société civile du Nord Kivu déplore ce qu'elle qualifie d'ambiguïté du gouvernement congolais face aux crimes contre les civils dans la zone des combats dans les territoires de Rutshuru et Masisi. C'est ce qui ressort d'un communiqué de presse signé hier à Goma par 10 délégués de la coordination provinciale de cette structure. La société civile qui dresse un bilan de près de 20 morts et 22 blessés durant ce mois d'octobre dit donner un moratoire de 2 semaines au gouvernement pour une solution. Bernard Benyangi.
La société civile estime dans cette déclaration que le président de la République et le gouvernement congolais devraient avoir une position claire plutôt que cette forme d'ambiguïté diplomatique face à cette guerre qui prend une ampleur de plus en plus inquiétante. John Banyene est président de la coordination provinciale.
Les terroristes du M23 RDF ont réattaqué et réoccupé Kichanga, Kinyandoni, Murimbi, Butare et Kibarizo en territoire de Rutshuru le 21 octobre sous un silence coupable de l'EAC et la communauté internationale. Il s'en est suivi des déplacements massifs des populations. Face à cette situation, la société civile donne un ultimatum de 2 semaines au gouvernement congolais d'abandonner sans délai l'aventure diplomatique et libérer tous les espaces sous l'emprise du M23 RDF.
Cette réaction de la société civile intervient un jour après la réoccupation dimanche de la cité stratégique de Kichanga par les rebelles du M23, pendant que l'armée congolaise observe toujours le cessez-le-feu exigé par les chefs d'État de l'EAC, dont la force régionale est accusée par une frange de la population congolaise de complicité avec l'ennemi. Goma, Bernard Nyangi, Radio Okapi.
Rendons-nous en Ituri. La prison centrale de Bunia est dotée d'un nouveau bâtiment construit par la MONUSCO pour abriter les enfants en conflit avec la loi. Selon le chef de bureau de la MONUSCO, l'objectif de cette action est d'améliorer les conditions de ces enfants et de renforcer l'état des droits pendant cette période de transition de la mission onusienne. Cette dotation permet également d'accroître la capacité d'accueil de cette prison confrontée au problème de la surpopulation carcérale. Isaac Remoyope, reportage.
Ces bâtiments inaugurés le week-end dernier est composé de 2 dortoirs, d'une capacité de 100 lits, d'une cuisine, d'une aire de détente et de latrine. L'ancien édifice ne répondait pas aux normes requises. Plus de 50 enfants étaient confinés dans une salle étroite, mal aérée et sale. C'est dans le but d'améliorer les conditions de ces enfants que la MONUSCO a construit ces nouveaux bâtiments. C'est l'envie de la promotion des droits de l'homme et une bonne administration de la justice. Karna Soro, chef de bureau de la MONUSCO en Ituri.
Il s'agit, pendant ces quelques mois qui restent à la MONUSCO, d'accompagner les autorités dans le renforcement de l'état de droit, qui par ricochet va réaffirmer l'importance de préserver les droits de l'homme, afin que les mineurs en conflit avec la loi puissent être encadrés de façon adéquate.
Cette action de la MONUSCO contribue également à accroître la capacité d'accueil de cette prison qui compte à ses jours plus de 2200 détenus, ce qui représente les quadruples de sa capacité initiale. Le directeur de la prison précise que l'ancien bâtiment des enfants sert actuellement de salle d'isolement des détenus tuberculés en vue de prévenir la propagation de cette maladie. Camille Zonzi.
Celui-là sera affecté comme un lieu d'isolement de malades souffrant de la tuberculose, dont le nombre est de 94 détenus tuberculeux.
Bunia. Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Je vous le disais en titre, les députés provinciaux de Kinshasa sollicitent les bons offices de Christophe Mboso, président de l'Assemblée nationale, pour le règlement du conflit entre eux et le bureau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Au cours de l'entretien leur accordé par Christophe Mboso hier au Palais du Peuple, les élus de Kinshasa ont dénoncé le détournement pendant 4 ans de leurs allocations et subsides par le bureau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Ils sollicitent l'implication du président de l'Assemblée nationale et du présidium de l'Union sacrée afin que d'une part, les plénières reprennent l'Assemblée provinciale et d'autre part, que leurs allocations soient remboursées et payées aux concernés. Jean Goy, porte-parole des députés provinciaux de Kinshasa, explique au micro de Michel Kifindangoy.
C'est un problème entre les députés et les bureaux. La majorité des députés avait pris l'option de voter la résolution pour la mise en accusation de l'ordinateur principal, qui est l'ancien président Godin Poyi, et l'ordinateur délégué, qui est l'ancien Kester Epiama. Alors, les hommes sont allés en justice pour la déchéance, pendant qu'il n'y avait pas une motion sur la déchéance. Le même jour, il y a un arrêt qui sort annulant la décision de déchéance de ces 2 membres de l'Assemblée provinciale. Pour nous, la résolution sur leur mise en accusation demeure. Nous avons vu le VPN qui a écrit suspendant les activités de l'Assemblée provinciale pendant la session budgétaire. Donc on ne peut pas comprendre les tenants et les aboutissants de cette décision-là. C'est pourquoi nous sommes venus en premier voir le président de l'Assemblée nationale, qui est aussi membre du présidium de l'Union sacrée, d'autant plus que tous les députés ici de la ville de Kinshasa sommes dans l'Union sacrée. Parce que ce que nous reprochons aux membres du bureau, c'est le détournement de l'argent des députés. Et le président nous a rassuré que la solution sera trouvée.
Et à propos des élections en RDC, le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication édicte une directive à respecter par les médias et les candidats durant la période électorale pour éviter tout dérapage qui risquerait de porter atteinte à la paix sociale en RDC. À cet effet, il annonce quelques séances au cours desquelles sera vulgarisée la dite directive à l'intention des médias et des candidats à l'élection présidentielle. Depuis 5 jours déjà, le CESAC dit avoir déployé en province ses équipes pour cet exercice et à Kinshasa, cela débute le jeudi prochain. Godens Banza Tiefolo, un des membres de la plénière de cet organe de régulation des médias congolais, explique cette directive au micro de Jeff Ngoy.
L'instance de régulation des médias en période de médias en RDC a voulu prévenir parce que nous attirons à travers ces directives l'attention des médias, des journalistes et de tous les acteurs sociaux et politiques, bref, tous les intervenants sur les médias opérant en RDC, de faire attention pour ne pas développer dans les médias les discours d'incitation à la haine, à la tribalisation des enjeux, incitation à la violence, d'atteinte à la vie privée et à la dignité des individus, mais aussi de ne pas verser dans les injures ou encore moins dans n'importe quel propos de nature à violer les textes et les lois et réglementaires en vigueur en République démocratique du Congo. Il est également demandé à travers ces directives aux journalistes candidats de se libérer de leur rédaction pour ne pas être juge et partie. La même directive prévoit également le tirage au sort de l'ordre de passage sur les médias des candidats.
Direction le Sud Kivu, nous apprenons la réouverture depuis ce mardi matin de toutes les stations-service de la ville de Bukavu. Le prix du litre à la pompe est revu à la hausse. Il revient à 3 970 francs congolais contre 3 450 francs auparavant. Situation consécutive à la nouvelle structure des prix signée hier lundi par le ministre de l'économie nationale, Vital Kamerhe. Toutefois, le prix du transport en commun n'a pas encore changé, signalant que cette nouvelle structure des prix de carburant était la condition principale posée par les pétroliers avant de rouvrir les stations et entreprendre l'importation des nouveaux produits. Et dans la partie ouest, donc Kinshasa, le litre d'essence revient désormais à 3 225 francs congolais. Rendons-nous à Mbujimayi et au Kasai Oriental. Le Centre d'études et de formation populaire pour les droits de l'homme, CFOP-DH, dénonce les incursions à répétition dans leurs concessions par des jeunes délinquants du quartier d'Ipa dans la commune de Diulu. Ces derniers perturbent le plus souvent la quiétude des services étatiques ou des ONG qui organisent des activités dans la salle polyvalente Mpoingongo en exigeant les frais allant de 10 à 200 dollars comme droit de terre. Si les fonds exigés ne sont pas remis, ces jeunes menacent et créent des troubles à l'ordre public. Maître Clément Mukendi, assistant juridique de CFOP-DH, explique la situation au micro de Esther Ndalafina.
La situation est très délicate au niveau de notre salle polyvalente. Les clients qui viennent pour solliciter la salle font face à plusieurs actes d'intimidation, plusieurs menaces, à plusieurs cas d'agression de la part de certaines personnes, un groupe de jeunes non identifiés qui se retrouvent généralement aux alentours. Ces jeunes gens demandent de payer une somme à titre de droit de terre, allant de 10 dollars jusqu'à 200 dollars. On ne sait pas comprendre. Les personnes qui organisent des fêtes sont intimidées, ils sont obligés à verser une somme d'argent pour qu'ils soient libres. Parfois, ils en arrivent au désordre, ils insultent, ils menacent même de procéder aux actes de destruction méchante. Nous avons en direct pour trouver ces patrimoines-là et nous ne pouvons pas perdre ces patrimoines-là dans un clin d'œil pour des raisons que nous ne connaissons pas. Nous lançons notre alerte auprès de toutes les autorités pour qu'ils puissent prendre des dispositions nécessaires pour éradiquer ces phénomènes qui sont en train de prendre de l'ampleur au niveau de tous les cas qui sont aux alentours du marché de Simis et rond-point Coïdron.
Au niveau de la police, on affirme que les enquêtes sont menées pour identifier les meneurs.
Actualité internationale.
Nous sommes au Libéria. La commission électorale devrait annoncer les résultats définitifs des élections générales du 10 octobre dernier, ce mardi. Selon plusieurs sources locales, l'organe en charge d'organiser et de proclamer les résultats finaux a déjà dépouillé les bulletins de 99,9% des 5890 bureaux de vote du territoire libérien et le président sortant George Weah arrive en tête avec une faible majorité de 43,84% devant Joseph Boakai. 43,44%. Et puis, en visite en Israël, Emmanuel Macron a rencontré le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, et lui a redit le soutien de la France. Le président français a par ailleurs appelé à une relance décisive du processus politique avec les Palestiniens, sujet dont il doit discuter dans l'après-midi à Ramallah avec le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, et mercredi avec plusieurs dirigeants de la région.
L'invité.
Le gouvernement de l'Ouganda et de la RDC ont convenu de la suppression des droits d'entrée par l'octroi des visas en vue de favoriser la libre circulation des personnes. C'était lors d'une rencontre de Kinshasa du 12 au 15 octobre dernier entre les délégations des deux pays, une mesure qui n'est pas encore en application en attendant les instructions des deux pays. L'Ituri est l'une des provinces de la RDC qui partage la frontière avec ce pays voisin où le trafic transfrontalier est dense. Comment l'Ituri peut-elle tirer profit de cette mesure ? Joël Oulard est le responsable du bureau des informations commerciales à la frontière de Mahagi. Il répond aux questions de Jean-Claude Loki.
Joël Oulard, bonjour. Bientôt, les Congolais qui veulent se rendre en Ouganda n'auront plus besoin de payer le visa pour entrer dans ce pays voisin. Vous qui œuvrez ou travaillez à la frontière, est-ce qu'une bonne nouvelle et une bonne mesure pour notre économie?
Personnellement, j'accueille cette mesure chaleureusement parce que ça va nous faciliter les transactions. Beaucoup de gens ne voyagent pas, ils ont peur parce qu'il y a trop de choses à payer au niveau de la frontière. Pour se rendre simplement face à Païda, vous devez payer le jeto qui va déjà près de 10 dollars de part et d'autre. Donc, ici, vous prenez les jetons avec 3 dollars. De l'autre côté, doit être estampillé avec 20 000 shillings ougandais. Vous avez déjà 10 dollars. Déjà, on perd de faire le commerce, le trafic. Et cette mesure viendra alléger, assouplir et ça fera que l'économie va s'accroître au niveau de nos régions transfrontalières. Mais sur le plan économique, ma crainte est là parce que au niveau du territoire de Mahagi, nous importons à 95% les produits manufacturés. À Mahagi, nous n'avons que les produits agricoles, donc les produits agricoles, les produits d'origine animale et autres. Nous allons dépendre maintenant presque sur le plan économique à 95% pour les produits manufacturés d'AFAS. Et ça, nous devons faire un travail important avec les opérateurs économiques sur place. On doit initier déjà des affaires d'entrepreneuriat. Le gouvernement doit appuyer certaines initiatives qui existent au niveau local. Mais sur le plan mouvement des personnes, il y aura beaucoup de gens qui vont voyager.
Qu'est-ce que nous exportons vers l'Ouganda? Je sais qu'il y a du café, par exemple.
Nous avons du café que nous exportons dans les trafics transfrontaliers. Et là, c'est presque 80% des cafés de Mahagi qui vont à pied, qui vont en vélo, qui vont en moto de ce côté-là. Mais le café qui est exporté d'une manière classique, ça ne peut être que par an, peut-être 2 ou 3 conteneurs de 19,2 tonnes, ce qui ne représente absolument rien. Donc, le creux de l'eau des cafés est exporté dans les trafics transfrontaliers. Et lorsqu'il faut maintenant l'envoyer sur le marché international, ça part avec le statut de l'Ouganda. C'est là où j'insiste, le gouvernement doit appuyer sur l'accélérateur pour encourager des initiatives pour l'entrepreneuriat, pour que les cafés soient achetés au niveau des Mahagi, stockés au niveau des Mahagi et puissent être exportés d'une manière légale sur le marché international.
À part ça, Joël, comment est-ce qu'on peut encore capitaliser cette bonne mesure, c'est le vous en tout cas de pouvoir lever cette mesure?
D'abord, sur les petits commerces. Les petits commerçants vont capitaliser les paies qu'ils gaspillaient en termes de paye et autres pour l'investir dans les marchandises. Les grands commerçants...
Oui, parce que pour aller à Kampala, il fallait payer combien?
Pour aller à Kampala, ce qui se fait présentement à Mahagi, vous devez payer soit le laissez-passer individuel à 5 dollars et on doit installer du côté de Goli à 50 dollars. Ça fait 60 dollars qui est parti. Maintenant, 60 dollars, lorsque vous les convertissez à shillings ougandais, vous allez à Kampala acheter la marchandise. Vous voyez ce que ça donne en termes de l'économie. Si vous faites par mois 4 voyages et autres, vous voyez à terme des gains, ça aura des répercussions. Et le peu d'argent qui est déjà payé de ce côté-là, on peut l'investir dans la construction, on peut l'investir dans les études, on peut l'investir dans beaucoup de choses. Mais une chose importante à faire est que faciliter les choses de cette façon-là, c'est très bien. À la frontière de Mahagi et Goli, jusque-là, on n'a pas encore installé le système de jeto. Parce que même si nous avons l'avantage, je dois aller à Païda par-ci par là, le mouvement doit être comptabilisé. On doit savoir combien de personnes ont traversé la frontière le jour, évatoriées par genre. Et ça, on ne sait pas le faire. Les gens passent sans pour autant respecter les mesures, c'est tout, c'est là.
Mais justement, c'était là ma question. On n'a pas une idée du nombre de personnes qui rentrent en Ouganda ou qui sortent de l'Ouganda ici du...
Seulement ceux qui vont à Kampala, la deuxième dispose de la statistique. Mais les gens qui vont à Païda, Nebi, Arua, Mahagi, des fois, déjà, passe pour autant dans des bureaux, ce qui n'est pas beau. Les retombées sont que lorsqu'il y a contrôle des routines au niveau intérieur, que ce soit à Mahagi, que ce soit en Ouganda, ceux qui ont traversé sans pour autant prendre ces documents-là, ils payent des amendes qui vont au-delà de 200 dollars. Nous devons vraiment sensibiliser, former les gens, savoir ce qui se passe. Et je sais qu'avec le projet que nous avons à la frontière, ce volet arrivera et que tout sera mis en jeu de notre côté. Le gouvernement doit vraiment appuyer pour que ce travail puisse se faire. En dehors de cette facilitation qui est accordée aujourd'hui, nous devons demander au gouvernement de construire également les marchés transfrontaliers. Parce qu'aujourd'hui, presque à 80%, les Ougandais qui sont dans le West Nile vivent des produits agricoles qui viennent du territoire de Mahagi. Mais aller au-delà des 20 km, c'est difficile. Le gouvernement doit vraiment construire un marché transfrontalier ici pour nous permettre de contrôler l'entrée de ces Ougandais. Parce que vous voyez que les marchés amènent aussi beaucoup de choses. On doit lutter contre la criminalité et beaucoup de choses. Lorsque le marché est proche de la frontière, donc on sait un peu limiter les dégâts. Ça, c'est ce que je demande au gouvernement.
Joël Oulala, je vous dis merci.
Merci beaucoup.
Le responsable du bureau des informations commerciales à la frontière de Mahagi en Ituri répondait aux questions de Jean-Claude Loki. Par ici prend fin ce journal coordonné par Élisée Chikotati-Vueta sous la supervision de Martin Sebujangwe, Mimi Kindou à la mise en onde et Belinda Bossouma vous l'a présenté. Merci d'avoir été des nôtres.